s'est donné à la croix de Golgotha. Oh, quel amour, quel insondable amour. Pour ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible, j'espère que vous l'avez prise avec vous. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, pardon, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. L'amour excuse tout, croit tout, supporte tout, espère tout. Le titre de notre prédication de ce matin, vous l'avez deviné, l'amour de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, les dimensions infinies de l'amour de Dieu. Quelle est la plus grande chose du monde ? Que faut-il regarder comme le bien suprême? Les richesses? Les honneurs? Le pouvoir? La science? Les exploits? Et que sais-je encore? En réalité, la chose la plus précieuse, le bien suprême qu'un homme puisse acquérir, je dis bien acquérir, au-delà de tout, au-dessus de tout, par-dessus tout ce que le monde et le diable peuvent offrir, c'est le don de l'amour agapé. Paul ne dit pas ici que l'amour agapé est nécessaire pour accomplir des choses extraordinaires et spectaculaires. D'ailleurs, il est évident qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir certains dons. Mais dans l'Église, dit-il en substance, même le don le plus remarqué, s'il n'est pas exercé dans l'amour, n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Car toutes les gloires, toutes les richesses, tout le pouvoir, tout le luxe, le bien-être, la popularité, les exploits, les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les prophéties, la force, la sagesse, et même les langues des anges et des hommes, la foi qui transporte des montagnes, la connaissance de tous les mystères, et comble de tout l'offrande de son corps en sacrifice suprême, tout cela, et plus encore, n'est rien, absolument rien, ne nous sert à rien, strictement à rien, sans l'amour agapé. Par contre, si l'amour inspire tous mes actes, il s'en trouve instantanément valorisé. Si par amour je parle, J'annonce l'évangile, j'approfondis les mystères. Si l'amour est la puissance de ma foi, la source de ma générosité, la force de mon service, et la motivation qui me pousse jusqu'au martyr, alors, et alors seulement, mes actions ont de la valeur devant Dieu. Sinon, elles ne sont que bruit, excitation et néant. Que dire de plus? Tout commentaire serait superflu, il ne serait qu'un bruit de plus. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que ce sont les fûts vides qui font le plus de bruit? Dans l'Église donc, tout service pour être valable devant Dieu doit être inspiré et motivé par l'amour. Mais qu'est-ce que cet amour? Qu'est-ce que cet amour qui est si grand, si essentiel, si spirituel, si infini, si éternel, et qui est capable de tout ce qui est bien, juste et bon, et qui, miracle extraordinaire de la grâce de Dieu, veut venir habiter en nous, afin de faire de nous des témoins vivants et puissants de cet amour agapé. Ceci nous amène à notre premier point que j'intitule « Considération générale ». Parler de l'amour de Dieu est un immense défi à la raison humaine, même à l'esprit régénéré, car Dieu est amour. Et si Dieu est insondable, incommensurable, l'amour agapé qui vient de Dieu, cet amour infini aussi est insondable, incommensurable. C'est pourquoi Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous encourage à nous atteler à la tâche avec l'aide de l'Esprit de Jésus qui habite dans nos cœurs. Alors, la puissance de Dieu qui peut tout nous fera comprendre, au-delà de tout ce que l'on pense, au-delà de tout ce que l'on peut demander, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. En effet, frères et sœurs, comment pourrions-nous mesurer, considérer et comprendre un amour si vaste et si profond, qui surpasse et dépasse toute connaissance, et être rempli de cet amour jusqu'à toute la plénitude de Dieu, oui, vous avez bien entendu, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, sans le secours agissant de Dieu lui-même en Jésus-Christ? Comment le pourrions-nous? De plus, si nous sommes invités à être remplis de cet amour agapé, de cet amour qui fait de nous des enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, voyez, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si telle est notre vocation, il est évident que ceux-là seuls, qui sont nés de Dieu, qui sont des enfants de l'amour divin, de cet amour qui unit le Père et le Fils, et qui ont été régénérés par l'Esprit, ceux-là seuls peuvent être remplis de la nature divine de laquelle ils sont nés, et de laquelle seuls ils peuvent se développer en se nourrissant de cet amour, comme le nourrisson du lait de sa mère. Cependant, même pour nous qui sommes dans ce monde, amour, comme Dieu lui-même est amour, le fait d'être rempli toujours davantage de cet amour jusqu'à toute la plénitude de Dieu n'est pas une mince affaire. Mais c'est le dessein de Dieu pour toute notre vie. En effet, l'amour agapé, premier aspect du fruit de l'esprit, est tellement éloigné de nos pensées naturelles, il est tellement élevé au-dessus de nos contingences terrestres, il est si grand, si vaste, si divin, si éternel, comme je l'ai dit tout à l'heure, que s'il ne nous était pas montré et démontré par Dieu en Jésus-Christ, nous n'aurions aucune idée de ce qu'il est. Sans parler du fait que sans l'intervention divine, nous sommes incapables à jamais de saisir, même dans une infime mesure, ces dimensions immenses et ces manifestations riches et variées. Et pourquoi ? Parce que même nous chrétiens, même pour nous chrétiens, cet amour est contraire à notre nature humaine, charnelle et pécheresse. Il est inconcevable pour notre intelligence, impossible à manifester pour notre volonté par nous-mêmes, insaisissable pour nos sens, intuition, impression, émotion, car notre cœur souillé et embrouillé par le péché ne peut pas au grand jamais appréhender, apprécier quelque chose qui n'est pas de la sphère humaine. Selon qu'il est écrit, l'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. Un Corinthiens 2. D'ailleurs, combien de chrétiens encore aujourd'hui s'imaginent à tort, bien sûr, que l'amour agapé n'est pas très différent de l'amour purement humain. Ils le conçoivent certes comme quelque chose de plus élevé, de plus pur, de plus chrétien que le simple amour humain. Mais notre nature ne nous pousse-t-elle pas à faire trop souvent, hélas, un amalgame avec la charité chrétienne purement humaine, humanitaire, les manifestations philanthropiques, les bienfaits immenses, nombreux, les aumônes, les libéralités abondantes, généreuses, les dévouements, les renoncements exceptionnels dont font preuve certains humains, jusqu'à donner leur vie, touchés qu'ils sont par la misère et la pauvreté de ce monde? Ne sommes-nous pas tentés de faire trop souvent avec ces choses un amalgame avec l'amour de Dieu qui donne son Fils, lequel donne sa vie pour des pécheurs impies, impénitents et ennemis de Dieu par leurs œuvres mauvaises et méchantes? Y a-t-il un rapport, y a-t-il un lien commun entre l'amour humain et l'amour divin? Toutes ces choses, chers amis, plus extraordinaires les unes que les autres, n'ont pas, aux yeux de Dieu, de valeur divine, malgré leur réalité intrinsèque et les mérites humains qui en découlent, et en dépit de tout ce que les hommes peuvent dire de ces êtres exceptionnels. Et pourquoi? Oui, pourquoi quand même? Parce que ces choses ne sont pas le fruit de l'union du divin et de l'humain. Lorsque dans son amour et sa grâce, Dieu en Jésus-Christ sauve un homme par la foi et le régénère par l'Esprit. En effet, le croyant, l'enfant de Dieu véritable, ne fera peut-être pas de pareils exploits, ne manifestera pas tant d'abnégation, ne montrera pas autant de dévouement, ne donnera pas autant d'argent et de temps, n'offrira probablement pas son corps en sacrifice, mais ce qu'il accomplira, dans l'esprit filial du premier amour, encouragé et motivé par la parole de Dieu, ce qu'il accomplira sera récompensé par Dieu à juste titre, puisque ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Et tout ce qu'il a fait est le fruit de sa relation constante avec le Dieu d'amour. Et ce résultat, bien que produit par l'homme, n'est pas de l'homme, mais de Dieu, car Dieu ne récompense que ce qui vient de lui et qui n'est pas de la chair. Ouh, est-ce possible? Ouh là là. Je vous avoue que ici les choses se compliquent un peu. Comment le chrétien doit-il croire et agir pour qu'il en soit ainsi? Alors procédons par étapes. Avant de dire ce que l'amour est et comment il agit en nous, je voudrais dire ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne fait pas. Nous arrivons à notre deuxième point, que j'intitule « Réflexion approfondie au sujet de l'amour ». Il faut le dire et le redire, aucun humain ne peut ni décrire, ni définir cet amour, puisque cet amour, c'est Dieu lui-même. Et que Dieu est inconcevable, invisible, inaccessible à l'œil humain. C'est pourquoi ce n'est qu'en Jésus, que par sa parole incarnée et par sa parole inspirée, que l'on peut, en vertu de la grâce de Dieu, recevoir cet amour et vivre de cet amour. Premier élément de ce deuxième point, l'utilisation abusive du mot amour. Il n'y a pas beaucoup de mots de la langue française que le mot amour qui a été autant galvaudé, déprécié, vilipendé, vidé de son sens, traîné dans la boue de ce monde pécheur, lequel s'est vautré dans la débauche, dans l'impureté, et dont la société s'est moralement corrompue à tous les niveaux. Ce mot, si beau, si pur, si élevé, si grandiose, a été utilisé à tort et à travers. Mélangé à toutes les sauces, engagé dans presque toutes les publicités pour la vente de tel ou tel produit, imprimé partout, surtout sur papier glacé, et proposé à tous les regards. Il anime toutes les discussions, s'exprime de différentes manières dans les chansons, décrit l'expérience sexuelle, facilite la vente de ce que l'on boit et mange. Il a une place de choix dans les films, dans les séries TV, dans les vidéos de toutes sortes. Jusque dans les bas-fonds de la dépravation du genre humain, et que sais-je encore. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Deuxième élément de ce deuxième point, la conception faussée de l'amour de Dieu. Dans une telle confusion, comment voulez-vous, mes chers amis, que les gens s'y retrouvent? C'est impossible, sauf si on leur explique ce qu'est vraiment l'amour, non pas humain, mais divin. En effet, ce mot agapé, traduit des écritures grecques par le mot amour en français, ne se réfère en fait qu'à Dieu seul. Car c'est lui et lui seul qui est digne d'être appelé amour, puisque l'amour est son attribut personnel. Il est donc évident que c'est la seule et unique prérogative de Dieu d'être amour, de vivre de son amour, de le donner à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il n'est peut-être pas inutile de préciser ici que le Nouveau Testament possède quatre mots pour décrire ce que nous appelons l'amour et pour exprimer les différents éléments que nous avons faussement introduits dans ce mot. Le premier mot que le Nouveau Testament utilise, c'est « eros ». Alors, je ne dois pas vous faire de grandes explications. Eros est utilisé pour tout ce qui est érotique, sensuel, sexuel, que l'homme a dénaturé. Ensuite, le Nouveau Testament utilise un deuxième mot qui s'appelle storgé. Storgé est utilisé pour toutes les affections et tendresses naturelles, innées, instinctives, comme l'affection et l'attachement incroyable d'une mère pour son enfant. Mais cela reste humain, soumis à toutes les contingences terrestres. Le troisième mot que le Nouveau Testament utilise, philia, qui a donné Philadelphie, hein, l'amour des frères. Philia est utilisé dans le Nouveau Testament pour tout ce qui est humain, familial, fraternel, émotionnel, sentimental, l'attachement humain. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Mais cet amour-là aussi, cet attachement est changeant selon le temps et les circonstances à cause de notre faiblesse humaine. Il peut être plus ou moins égoïste, intéressé, désintéressé, etc., etc. Et puis enfin, le Nouveau Testament utilise encore un mot, le mot agapé. D'où est tiré agape, hein? La communion fraternelle, le dîner en commun, le repas, le partage. Agapé, c'est le mot que le Saint-Esprit lui-même a forgé tout exprès pour parler de l'amour de Dieu. Ce mot décrit la profondeur du cœur de Dieu, sa nature divine absolument bonne et parfaite, juste et sainte. cette nature divine est exempte de tout mal, et il ne peut rien faire qui ne soit conforme à son essence divine et éternelle. Jamais, jamais, au grand jamais, Dieu peut faire quelque chose qui ne soit pas conforme à sa personne. Ainsi donc, selon les Écritures, l'amour agapé est totalement différent de ce que nous appelons communément l'amour, mais qui n'est autre que les affections, les attachements, les amitiés, les tendresses, les sentiments et les passions plus ou moins légitimes. Cependant, ces choses ne sont pas à mépriser, dans la mesure où elles sont compatibles avec la volonté de Dieu et correspondent aux bonnes mœurs de la société dans laquelle nous sommes. Troisième élément de ce deuxième point, les dispositions de l'attachement humain. L'attachement humain est essentiellement basé sur les sentiments, les émotions, les impressions, les sensations. Il est dirigé par les situations ou les circonstances. Il n'est pas mauvais en soi, mais étant donné que son caractère est plutôt émotif, il est donc spontané, imprévisible, pas facile à contrôler, à maîtriser. Il est souvent irréfléchi et varie en intensité au gré des circonstances et peut apparaître et disparaître d'un moment à l'autre, selon les humeurs et les sentiments. Oui, je t'aime, non, je t'aime plus. Bon ou mauvais que l'on peut éprouver, l'attachement, l'amitié sera à l'image de la personne qui le manifeste. Il sera conforme à sa personnalité, à son caractère, à son vécu, à son éducation, à sa formation, à ses ambitions, à ses intentions réelles, bref, à ses projets pour la vie présente et pour la vie future. En outre, l'attachement humain est faible et limité. Il est faible dans sa force. Il ne peut pas résister longtemps aux vicissitudes de la vie. Sinon, comment expliqueriez-vous tous les divorces, même chez les chrétiens? Il faut pour le maintenir quelque peu du changement, du renouveau. Il n'a pas la volonté de demeurer et de rester fidèle. Enfin, il n'est que poussière, comme l'homme, éphémère, comme la fleur des champs, qui éclot le matin et que l'on coupe le soir. Il dure un temps, plus ou moins long, selon les cas, puis il s'épuise, se fane et meurt. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas relié à la source de l'amour divin. Quatrième élément de ce deuxième point, les dispositions de l'amour divin, par comparaison avec les dispositions de l'amour humain. Frères et sœurs, l'amour divin est complètement différent de l'attachement humain. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour divin est élevé au-dessus des sentiments, des affections humaines. Alors nous voulons d'abord essayer de le décrire et nous tenterons de le définir ensuite. L'amour agapé n'est pas d'abord une question de sentiment, mais de volonté. Il n'est pas seulement une amitié sincère et fidèle, il n'est pas simplement une charité tolérante, une fraternité bienfaisante, une convivialité divertissante, ni même un attachement des plus forts, des plus sûrs et des plus solides. Mais selon l'exemple même de Dieu, il est un acte de volonté délibéré et réfléchi, animé par les besoins de l'autre, selon qu'il est écrit, car Dieu a tellement méprisé le monde qu'il est resté dans sa tour d'ivoire. Vous n'avez pas la même Bible? Car Dieu, comme on l'a entendu déjà ce matin dans la lecture, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils a donné sa vie. En un mot, l'amour, c'est le don de soi pour l'autre. Et selon l'Écriture, il est nécessairement don de Dieu, œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, et par conséquent, entièrement différent de l'amitié des hommes, puisqu'il porte en lui la signature de Dieu. Il est libre et réfléchi. Il jaillit librement et spontanément du cœur de Dieu. Il est la manifestation de sa volonté, laquelle est motivée par sa pensée, en fonction des besoins de l'autre ou des autres. Cependant, rien ni personne ne peut l'influencer d'aucune manière, car il n'est dépendant de personne. Il fait ce qu'il veut selon le bon plaisir de sa volonté et selon son dessein bienveillant à l'égard de l'humanité perdue. Il est absolu, au plus haut degré de sa divinité essentielle et éternelle. Il est total, impliquant chaque personne de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la dimension entière et complète de leur personnalité respective. Il est radical, efficace, dans la mesure infinie et éternelle de la puissance, de la force et de la sagesse de Dieu qu'il peut manifester en tout temps, où il veut. Il est unique. Il est unique. Incomparable, inimitable, puisque Dieu lui-même est le Dieu Saint, le tout autre, au-delà de tout ce qui peut exister dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est éternel, il est unique, il est éternel. Dieu ne change pas, il ne ment pas. Il ne se renie pas, il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Ce qu'il promet, il le réalise certainement, car sa parole demeure comme la foi, l'espérance et l'amour. Je ne sais pas quelle heure c'est exactement, ici c'est moins quart, il me reste 5 minutes. Je veux d'après cette montre, hein. Parce que là, j'en ai pas. La définition de l'amour. La définition de l'amour agapé qui vient de Dieu. La description que nous donnent les Écritures au sujet de l'amour agapé nous permet de définir ainsi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? Quelqu'un se risque, se lance? L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, manifesté librement, volontairement, par Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la création et dans la rédemption. Cette manifestation visible et tangible de l'amour de Dieu, c'est le don de la création pour l'homme, le don de son Fils pour le salut de l'humanité, le don des Écritures, de la Bible, pour l'instruction et la conduite de son peuple, sans oublier le ciel de gloire, l'héritage éternel, pour tous les élus, ce que Dieu justement a inclus dans son amour, en Jésus-Christ, son Fils, par la régénération de l'Esprit. L'amour agapé donc, à sa source en Dieu, sa nature est divine, sa manifestation est divine et son fruit, son but, pardon, est divin. En un mot, je le répète, l'amour agapé, c'est le don de soi pour l'autre. Et je termine avec 4 mots-clés qu'on développera une autre fois. Et on parlera aussi, Dieu, si Dieu veut et si nous vivons, de la parabole du bon samaritain, qui nous montre comment on doit appliquer l'amour de Dieu pour le prochain. Comment Dieu nous a-t-il aimés, d'après la parabole du samaritain? En prenant l'initiative, en se donnant lui-même pour nous, en Jésus-Christ, à la croix et dans sa mort, afin de nous réconcilier avec lui. Et quelques petits grains à moudre, en attendant que nous poursuivions notre petite série sur 1 Corinthiens 13, comment Dieu nous a-t-il aimés? Vous les voulez, ces petits grains à moudre? Sans condition. Sans condition. Sans distinction. Sans restriction. Et sans abolition. Sans condition. Sans distinction. sans restriction, sans abolition. Quel amour! Quel insondable amour! Avez-vous déjà essayé de le mesurer au moins un peu? Allez-y. C'est permis. C'est recommandé. C'est même chaudement recommandé. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.